Pergamine. Dans notre Canada, comme aux États-Unis, comme dans tous les pays évolués, il n'existe plus aujourd'hui de réels problèmes de production pour répondre aux besoins normaux de toute leur population. Mais ils souffrent honteusement de problèmes de distribution, la chose pourtant la plus simple et la plus agréable à accomplir. Non pas qu'ils manquent de moyens de transport ou de livraison, mais parce que l'accès d'un individu aux produits offerts est conditionné par le pouvoir d'achat dont il dispose. Or, ce pouvoir d'achat n'est point lié à la personne ou à ses besoins. Il résulte de divers facteurs qui laissent des personnes, des familles privées ou insuffisamment pourvues de moyens de paiement. Il y a là un devoir incombant au législateur. La part nécessaire de chaque personne au bien essentiel à la vie ne doit pas être laissée aux aléas des circonstances, aux accès de fièvre ou de dépression du mécanisme de crédit, aux maladies périodiques ou chroniques des unités monétaires, aux décisions des créateurs de vaches grasses et de vaches maigres, aux appétits ou aux indigestions des fauves de la finance et de la grande industrie, ni à l'humeur accueillante ou repoussante des prêteurs internationaux auxquels des gouvernements sots ou déchus vont au chapeau bas demander la permission de mettre en œuvre les possibilités productives de leur pays. Il serait inexact de dire que rien n'a été fait depuis la dernière guerre pour atténuer les effets révoltants d'un système économique qui sait produire en abondance mais ne s'est pas distribué. Sous la pression justement d'une abondance accumulée, acculant au chômage et provoquant à la révolte, et aussi parce que l'enseignement lumineux du crédit social a fait plein jour sur le mystère de l'argent et jeté aux orties le jargon des économistes, les gouvernements ont procédé à certaines mesures pour permettre de distribuer un peu de pouvoir d'achat à des personnes qui n'en reçoivent pas d'un emploi dans la production. C'est pour elles un revenu dissocié de l'emploi. On a vu naître ainsi les allocations familiales, demeurées trop minces devant des prix triplés et une production accrue, des pensions d'invalidité, cécité, des allocations aux mères nécessiteuses, de l'assistance sociale, des pensions de vieillesse. C'est mieux que le néant d'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est encore du rapiéchage pour réparer un peu les déficiences d'un revenu mal ordonné à sa source et pour empêcher l'effondrement total d'un système quinquennal de distribution. Tout l'argent affecté à ces mesures dites de sécurité sociale provient d'ailleurs de revenus d'abord liés à l'emploi, puis extrait par des taxes et redistribué aux pensionnaires et aux secourus. Mais taxer ainsi le revenu de A et de B pour passer à C ou à D, c'est puiser dans l'assiette des premiers pour mettre dans l'assiette vide des derniers, alors que le garde-manger reste plein à craquer par le flot fourni de l'abondante production moderne. Cela ne paraît pas bien intelligent. Ces défauts dans la distribution des biens répondant aux besoins proviennent de ce que la vie économique est viciée par sa soumission à un système financier complètement détourné de sa fin, un système devenu dominateur quand il devrait être serviteur, système aussi qui fausse la vision des réalités économiques. Ces réalités sont, d'une part, les besoins des hommes, besoins privés ou besoins publics, et d'autre part, les possibilités existantes de répondre à ces besoins. Demander, par exemple, au gouvernement de tripler les allocations familiales parce qu'elles n'ont point été accordées au taux des hausses des prix, on vous fera répondre, ce serait bien désirable, mais notre situation financière ne le permet pas. Objectez, Mais si les familles qui élèvent des enfants se procuraient plus de lait, plus de fruits, plus d'autres utilités, croyez-vous que la capacité de production du pays est trop épuisée pour y répondre? On vous répondra. La question n'est pas là. Le pays peut produire, mais il ne peut pas payer. Et c'est final. On ne passe pas outre. La finance n'est donc pas en rapport avec le réel en matière de production. Or, c'est la finance qui dicte la décision. Elle peut faire fi des besoins humains. Elle est plus sacrée que les enfants, que les personnes, que les familles. Elle est du moins considérée comme plus sacrée dans la pratique par tous les gouvernements et par tous leurs aviseurs diplômés du système. La grande capacité moderne de production, si elle était servie au lieu d'entraver par un système financier adapté, pourrait facilement répondre aux besoins d'une vie convenable pour toutes les familles du pays et facilement aussi aux besoins publics dans l'ordre de leurs priorités, ce qui permettrait vraiment un organisme économique et social pour tout homme et pour tout l'homme. En même temps, les pouvoirs publics de tous les échelons cesseraient d'être continuellement harcelés par des problèmes de finances. Leur fonction principale et presque unique aujourd'hui semble être de chercher de l'argent. Les lecteurs habituels de Vers demain ont pu remarquer qu'en matière économique, ce journal ne parle guère que du système financier. Rien des méthodes de production, rien des richesses naturelles, des pouvoirs d'eau, des mines, des moyens de transport, des grandes industries, sauf pour critiquer leur gigantisme et la dépersonnalisation des masses qu'elles emploient, rien des méthodes d'agriculture, des métiers, de l'apprentissage, etc. Pourquoi? Nous n'ignorons certainement pas l'importance de toutes ces autres questions, mais nous constatons qu'elles sont très bien traitées par d'autres auteurs, que d'ailleurs le flot de production de toutes sortes est bien entretenu, et que s'il y a étranglement ou congestionnement quelque part, ce n'est point dû au système producteur lui-même, mais au système financier qui est d'une toute autre origine. De même, nous laissons à d'autres les questions de sociologie, même si elles touchent de près à la bonne orientation de la vie sociale, sauf ici encore pour regretter que les sociologues examinent tout excepté le système financier, qui pourtant affecte considérablement le comportement de la vie sociale comme de la vie économique. Nous croyons que, comme l'exprimait le pape Benoît XV, la question sociale se résume à une juste distribution de la richesse. Nous croyons de plus que cette juste distribution pourrait être réalisée par un système financier reflétant les réalités et comportant dans ses règlements la garantie d'un certain revenu à tous et à chacun des membres de la société. C'est ce que ferait l'application des principes du crédit social, tel qu'énoncé par l'ingénieur économiste Clifford Douglas, d'où l'importance considérable que nous y attachons au crédit social authentique, ce qui n'a rien à voir à ce que disent ou font des politiciens comme Cahouette et son ralliement qui profanent le nom de crédit social en faisant la désignation d'un vulgaire parti politique. Mais pour bien comprendre le crédit social authentique, les possibilités de son application, il ne faut pas en juger sous l'éclairage du système actuel, car du premier coup, dès l'abord, le système actuel et le crédit social prennent, vis-à-vis de la finance, deux attitudes opposées. Le système actuel soumet les possibilités physiques de production à la présence de l'argent, du crédit financier. Le crédit social, au contraire, soumet le système financier aux possibilités physiques de répondre aux besoins humains. C'est l'argent qui doit répondre au réel et non pas le réel qui doit être entravé par l'argent. Comment le crédit social peut-il obtenir ce renversement? Parce qu'il considère comme qu'un système financier doit être assez souple pour s'adapter en tout temps aux réalités économiques qui sont elles-mêmes le résultat d'actes posés par des producteurs libres répondant à des besoins humains exprimés librement par des consommateurs libres, d'où le titre de « démocratie économique » que Douglas donna à son premier livre sur ce sujet. C'est d'autant plus facile à réaliser cet ajustement que le système d'argent est déjà actuellement un système de comptabilité. Il n'est que d'en faire une comptabilité exacte au lieu de cette comptabilité fausse qui exprime un enrichissement réel effectué par la population du pays par une dette publique à payer par la même population du pays. Et ses autres mauvais fruits sont multiples. Le crédit social, ajustant constamment la finance au réel, on ne verrait plus les prix monter à mesure que la production devient plus facile et plus abondante. Au contraire, les prix baisseraient dans la mesure où les produits deviennent plus faciles grâce à la machine et au progrès. Au lieu de l'inflation, de la montée des prix, qui va toujours en augmentant dans le système actuel, on verrait les prix ajustés avec la facilité de production. Un escompte général abaisserait les prix à payer par les consommateurs et une compensation de cet escompte aux marchands ferait les producteurs quand même récupérer toutes leurs dépenses. Un autre principe du crédit social qui doit être admis pour qu'on le comprenne, parce qu'il correspond au réel d'ailleurs, mais dont on ne trouve aucune application dans le système actuel, c'est que l'abondante production moderne est bien plus le fruit d'inventions, de perfectionnements successifs, d'applications scientifiques, de découvertes de puissantes sources d'énergie, en un mot, du progrès, que du travail des hommes employés dans la production. C'est là un héritage, un immense capital réel, capital bien plus important que le capital argent, qui n'est lui, après tout, qu'un capital chiffre, la chose la plus facile à faire, alors que le capital progrès a pris des siècles à se former. Cet héritage communautaire, grand facteur de production, n'est la propriété exclusive d'aucun être vivant. C'est un bien commun dont l'usufruit doit valoir un revenu social, un dividende périodique à tous les co-héritiers, donc à tous les membres de la société au même degré, sans pour cela supprimer la récompense à ceux qui mettent en œuvre ce capital, qu'ils mettent en rendement. Comme on voit, le crédit social envisage une conception du système financier et du mode de distribution de la richesse bien différente de celle du système rapace et antisocial d'aujourd'hui. Une économie créditiste pourrait fort bien se servir des mêmes canaux, bancaires ou autres, pour la mise en circulation du crédit et son retour, mais avec un mode s'inspirant d'une toute autre philosophie. Philosophie parfaitement en rapport avec le service de tout homme et de tout l'homme réclamé par les papes pour un organisme économique sain et authentiquement social. Un cours de crédit social ne peut pas se donner en un quart d'heure, mais en suivant les articles vers demain sur le sujet, on peut se familiariser et cette étude en vaut certainement la peine à cause des grandes lumières qu'elle répand.
Amen.